Vous écoutez RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
Romain Ozoui.
Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
À la une de l'actualité ce soir, la trêve qui n'a pas duré dans le nord de la Syrie. Au moins 14 civils ont été tués ce vendredi, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 24 heures après que la Turquie a décidé de marquer une pause de 5 jours dans l'offensive qu'elle mène face aux forces kurdes.
Au Liban, les manifestations continuent. Plusieurs milliers de personnes dans la rue, à nouveau ce vendredi, après que le gouvernement ait décidé d'annuler une taxe qui faisait polémique. Et nous appellerons Beyrouth dans ce journal.
Et puis le fils d'El Chapo, au Mexique, libéré après avoir été détenu quelques heures seulement. C'est une décision prise par les autorités pour tenter de ramener le calme dans ce fief du baron de la drogue mexicain.
Le journal.
Un journal.
En français facile.
En français facile.
Dans le nord de la Syrie, la trêve semble avoir volé en éclats après seulement quelques heures.
Oui, une trêve qui vole en éclats, c'est une expression que l'on entend souvent. Cela veut dire que la trêve n'a pas tenu. Cette trêve donc avait été annoncée hier soir par le vice-président américain Mike Pence. Cette trêve prévoit une pause dans les combats pendant 6 jours. Et après ces 6 jours, la Turquie s'engage à arrêter son offensive si les forces kurdes se retirent. Mais dès ce vendredi, effectivement, les combats ont repris. Au moins 14 personnes ont été tuées, annonce l'Observatoire syrien des droits de l'homme. C'est une situation qui fait dire au président du Conseil européen, Donald Tusk, que la trêve n'en est pas vraiment une. On l'écoute au micro d'Anastasia Becchio.
La situation est assez évidente, c'est un soi-disant cessez-le-feu, ça n'est pas ce à quoi nous nous attendions. En réalité, ce n'est pas une trêve, c'est une demande de capitulation des Kurdes, et je pense que nous devons être très cohérents ici et que nous devons réitérer notre appel à la Turquie pour qu'elle mette immédiatement fin et de manière permanente à son action militaire, qu'elle retire ses troupes et qu'elle respecte la loi humanitaire internationale. Ça n'est sûrement pas le résultat de l'accord conclu entre le vice-président américain Pence et le président turc Erdogan.
Voilà, Donald Tusk, donc le président du Conseil européen qui s'exprimait depuis Bruxelles, où s'est achevé ce vendredi le sommet européen, avec l'accord sur le Brexit hier. Après cet accord, il était question ce vendredi de l'élargissement de l'Union européenne, et notamment des candidatures de l'Albanie et de la Macédoine du Nord, des candidatures qui n'ont pas abouti, car les d'importantes divergences sont apparues entre les États membres, notamment le président français Emmanuel Macron, qui s'est prononcé contre cet élargissement, ce qui lui a valu les critiques de plusieurs de ses partenaires européens.
Des manifestations monstres ce soir à Barcelone.
Oui, des centaines de milliers de personnes dans la rue. Beaucoup d'entre eux sont partis mercredi de plusieurs villes de Catalogne pour rejoindre donc Barcelone. Elles ont entamé une grande marche qui s'est achevée ce vendredi. C'est un vaste mouvement de protestation qui dure depuis l'annonce en début de semaine de la condamnation de 9 dirigeants séparatistes pour leur tentative de sécession, donc leur tentative de rendre la Catalogne indépendante. C'était en 2017.
D'autres manifestations ce vendredi, Romain, au Liban.
Oui, et d'autres revendications, des revendications cette fois économiques. Tout a débuté hier, après que le gouvernement a décidé d'imposer une taxe sur les appels effectués via les applications de messagerie Internet. Cela a fait immédiatement bondir la population, car le pays traverse une très grave crise économique. Par conséquent, les autorités ont décidé d'annuler cette taxe, mais les manifestations ont continué ce vendredi à tel point que l'ONU est intervenue aujourd'hui pour demander un apaisement des tensions. On retrouve justement en direct de Beyrouth notre correspondante Laure Stéphan. Laure, alors quelle est la situation dans la capitale libanaise?
De nombreux Libanais étaient toujours rassemblés vendredi soir dans le centre de Beyrouth pour dire leur colère contre la corruption et le gâchis dont ils accusent la classe politique. Mais beaucoup de manifestants ont aussi quitté la place au fur et à mesure de la montée de la violence. Près du siège du gouvernement, les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes après avoir essuyé pendant plusieurs heures des tirs de projectiles de la part de certains manifestants prêts à en découdre. Et la peur est que la violence aille crescendo. Dans la journée, on a vu deux tendances, une majorité de protestataires, des jeunes, pour beaucoup exprimant leur colère par des slogans et des chants, et d'autres plus agressifs, en marge du rassemblement aussi des casseurs ou des jeunes révoltés brûlant des pneus et brisant des vitrines. Des manifestants les accusent de vouloir casser le mouvement de mobilisation car la violence risque d'agir comme un repoussoir. Malgré le ras-le-bol formulé par les manifestants, un ras-le-bol face aux conditions de vie et à la crise économique. Le mouvement n'a toujours pas de leadership, il s'est étendu dans d'autres régions du pays. La déclaration du Premier ministre Saad Hariri en début de soirée n'a pas apaisé les esprits. Il a donné 72 heures pour prendre une décision. Le sentiment des manifestants est que le gouvernement de coalition cherche à gagner du temps.
Voilà, alors Stéphane, donc, correspondante de RFI en direct de Beyrouth dans le journal En français facile.
Allons au Mexique à présent où le fils d'El Chapo est libre.
Oui, situation extrêmement difficile, Sylvie, à Culiacán, dans le nord-ouest du Mexique, là où se trouve le fief d'El Chapo, donc El Chapo, le baron de la drogue au Mexique, qui lui est actuellement en prison aux États-Unis. Ce vendredi, en effet, alors que des policiers circulaient dans cette ville, ils ont été visés par des tirs. Ils sont alors entrés dans une maison, cette maison d'où ces tirs provenaient. Ils y ont trouvé un des fils d'El Chapo. Ils l'ont interpellé, mais la violence est alors montée d'un cran, à tel point que quelques heures plus tard, les autorités ont décidé de relâcher le fils d'El Chapo, et le président mexicain lui-même, André Manuel López Obrador, a justifié la décision des policiers dans un seul but, a-t-il dit, pour que les violences cessent. Je vous propose d'écouter le président mexicain.
No hay impunidad.
Il n'y a pas d'impunité parce qu'il n'y a pas de complicité entre les délinquants et les autorités. La démarcation, la frontière qui sépare la délinquance des autorités est très claire. Ce qui est arrivé ce jeudi est le produit d'un concours de circonstances dans lequel nous avons privilégié la protection de la vie des êtres humains. C'est ce qui existe de plus sacré, la vie des personnes. C'est pour cela qu'on a pris cette décision. Nous avons une politique précise pour garantir la paix et la tranquillité. Et nous savons ce qu'il ne faut pas faire, utiliser la force, la violence, les massacres. Nous savons déjà que ça ne donne pas de résultats. Par contre, nos adversaires aimeraient que l'on agisse de cette manière. Mais nous n'allons pas changer de politique. Et je suis sûr que nous allons continuer à agir de cette manière avec l'appui de la population.
Vamos a seguir contando con el apoyo de la gente.
Voilà, André Manuel López Obrador, donc le président du Mexique. Et ce soir, les aveux du ministre mexicain de la Défense. Cette opération était mal préparée, déclare-t-il, donc en réaction à l'arrestation puis la libération du fils d'El Chapo.
On va parler d'économie à présent, Romain, et la croissance qui ralentit en Allemagne.
Oui, une nouvelle fois, le gouvernement allemand décide d'abaisser ses prévisions. Cependant, il l'assure, pas de risque de crise économique. Explication, Myriam Berber.
Ce ralentissement était attendu, mais il est plus dur que prévu. Berlin prévoit une croissance de 1% pour 2020 au lieu de 1,5% espéré. Ce coup de mou s'explique par les incertitudes liées au Brexit et par les tensions commerciales mondiales. L'industrie automobile paye la guerre des taxes douanières entre la Chine et les États-Unis, ses deux principaux clients, sans compter le ralentissement économique chinois. Depuis l'an dernier, la production automobile a chuté de 20%. Résultat, les entreprises ont de plus en plus recours au chômage partiel. Autre indicateur dans le rouge, le secteur des services montre des signes de faiblesse et la consommation des ménages est en berne. Cette situation n'inquiète pas pour autant le gouvernement, pour qui il n'y a pas de risque de crise économique. Face à son voisin allemand, la France résiste mieux. Pour la première fois depuis 15 ans, elle devient la locomotive européenne et devrait encore le rester l'année prochaine.
Myriam Berber du service économie de RFI.
Et on va passer au sport dans ce journal En français facile avec le football actuellement, le premier match comptant pour la 10e journée de Ligue 1.
Oui, c'est le premier du classement qui est sur la pelouse au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain accueille Nice. On joue actuellement la seconde période et les Parisiens mènent 2-0. Et puis un mot de rugby puisque débuteront demain matin les premiers quarts de finale de la Coupe du Monde de rugby qui se déroule actuellement au Japon. Les deux premières affiches, l'Angleterre face à l'Australie et la Nouvelle-Zélande contre l'Irlande. Voilà, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci de nous avoir suivis. Merci Sylvie Berruet.
Merci Romain, bonne fin de soirée à vous et à demain.
Merci à Claude Battista qui était ce soir à la réalisation. 22h10 ici à Paris, 2h de moins en temps universel.